Au sixième étage de l'hôtel, Macaire faisait le pied de grue devant la suite de Tarnogol. Il devait absolument lui parler. Depuis son arrivée au palace, il l'avait cherché partout sans succès. Ni dans le hall, ni dans les salons, ni au bar. Depuis maintenant une demi-heure, il tournait en rond devant la porte comme si cela allait le faire venir. Finalement, Tarnogol apparut dans le couloir, arpentant la moquette d'un pas énergique. Macaire lui trouva, comme la veille, un air inquiet. « Macaire !» s'étonna Tarnogol en le trouvant devant sa porte. « J'ai besoin de vous parler, signor. » Tarnogol regarda autour de lui comme un animal traqué, puis il ouvrit la porte. La suite était plongée dans le noir. Tous les stores étaient baissés. Tarnogol, après avoir allumé les lumières, ouvrit tous les placards et fit un tour dans la salle pour s'assurer qu'il n'y avait personne.
« Au vu de la situation, je suis obligé de prendre quelques précautions, » expliqua-t-il à Macaire avant de lui désigner un fauteuil pour qu'il y prenne place.
Macaire s'assit et Tarnogol, après s'être installé face à lui, poursuivit.
« Nous savons tous les deux qu'il s'agit de mon dernier grand week-end, Macaire. La question est de savoir si c'est le dernier pour toi aussi. »«
Pourquoi serait-ce mon dernier grand week-end ? » demanda Macaire sans pouvoir masquer sa nervosité.
« Parce que la pétrante est sur mon dos et sur le tien aussi. »
Macaire blêmit. « Qui vous a parlé de la pétrante ? » demanda-t-il.
« Allons, Macaire. Les services spéciaux russes sont sur le coup depuis longtemps. Tu es surveillé tout autant que je les suis.
Tu sais, à la différence de beaucoup d'autres, je ne t'ai jamais pris pour un idiot. Au contraire.
Au fond, tu n'as commis qu'une seule erreur. Te méfier de l'étranger alors que le danger vient de tes frères.
Le danger ? Que voulez-vous dire ?
Est-ce qu'Anastasia va bien ?
S'enquit Tarnogol d'un air narquois.
Ma femme ?
Que vient faire ma femme là-dedans ? S'écria Macaire en fouillant ses poches dans un geste réflexe pour trouver son téléphone portable. Il se rendit compte qu'il avait oublié dans sa chambre depuis tout à l'heure. Bondissant de son siège, il se précipita dans sa suite et se jeta sur son téléphone posé sur la commode du couloir de l'entrée. L'écran de l'appareil lui indiqua qu'il avait raté une dizaine d'appels de sa femme. Il comprit qu'il s'était produit un événement grave. Il sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il téléphona aussitôt à Anastasia.
« Macaire, enfin tu rappelles !»
dit-elle en décrochant. Elle était dans le hall d'entrée de la maison avec le lieutenant Sagamore.
« Que se passe-t-il, chouchou ?»
balbutia Macaire paniqué.
« Un homme, dans la maison. Entré par effraction, la fenêtre du boudoir... « Je me suis absenté pour faire une course et je l'ai surpris à mon retour. »«
Tu n'as rien ?»«
Non, il s'est enfui aussitôt. Il a ouvert le coffre du boudoir, il l'a vidé. La police demande ce qu'il y avait à l'intérieur. »
Macaire resta silencieux. Il était terrifié. Tarnogol préparait l'échange. Le poste de président contre Anastasia. Il fallait immédiatement mettre Anastasia à l'abri. Celle-ci répéta sa question.
« Qu'y avait-il dans le coffre ?» Il y a la police avec moi, il voudrait savoir.
Des documents,
bégaya Macaire totalement décontenancé.
Des documents bancaires importants, je les ai pris avec moi. Le coffre était vide.
Anastasia perçut la peur dans la voix de son mari. Elle blêmit, ce qui mit la puce à l'oreille du lieutenant Sagamore, qui ne l'avait pas quitté du regard. Ce dernier demanda à pouvoir parler à Macaire et prit le téléphone.
Monsieur Besner. « Ici le lieutenant Sagamore de la brigade criminelle. »«
La brigade criminelle ? Je croyais à un cambriolage. »«
Je crois que c'est beaucoup plus sérieux qu'un cambriolage. »« Votre femme a manqué d'être agressée. »« Qu'y avait-il dans votre petit coffre du rez-de-chaussée ?»«
Rien que des documents, » assura Macaire au policier. « Des documents pour la banque que j'ai pris avec moi. »«
Quel genre de documents ? »
interrogea le lieutenant Sagamore.
« Oh, rien de particulier. » répondit Macaire d'un ton détaché, de la paperasse administrative. Rien qui puisse intéresser qui que ce soit. Le cambrioleur s'imaginait certainement y trouver Dieu sait quel bijou.
Quand vous rentrerez de Verbier, pouvez-vous passer me voir, s'il vous plaît ?
Requit le lieutenant Sagamore.
J'aurai quelques questions de routine à vous poser.
Mais bien entendu, lieutenant. Et merci à vous et à vos hommes de votre prompte intervention. Puis-je parler à ma femme ?
Le lieutenant Sagamore tendit l'appareil à Anastasia qui s'écarta de quelques pas avant de reprendre la communication.
« Tu es en danger, chouchou !»
lui souffla alors Macaire d'une voix étranglée. « Dans la bibliothèque du boudoir, tu trouveras sur le deuxième rayonnage, caché derrière une rangée de livres, un petit cahier. Détruis-le
Brûle-le dans la cheminée, il ne doit plus rien en rester. Est-ce que tu m'as bien compris ? Tout en écoutant les consignes de Macaire, Anastasia afficha un grand sourire pour tromper le lieutenant Sagamore qui la regardait toujours, puis elle prit sa voix la plus détendue pour répondre à son mari.
« Absolument, mon chéri. Et surtout, ne te fais aucun souci, tout va bien. »
Elle raccrocha. Macaire, hors de lui, ouvrit le petit coffre-fort de sa chambre et en sortit son revolver qu'il avait emporté avec lui. Il se précipita dans la suite de Tarnogol, dont la porte était restée ouverte. Ce dernier n'avait pas bougé de son canapé. Macaire braqua alors son arme sur lui.
« Je vais vous tuer, Tarnogol, et tout sera fini » hurla-t-il.
« Du calme !»
dit Tarnogol, qui ne sembla pas effrayé par le canon qui le visait.
« Vous ne m'en croyez pas capable ?»
s'écria Macaire.
« Au contraire, je sais que tu en es capable. Je sais ce qui s'est passé à Madrid.
Qu'est-ce que...
Baisse ton arme, Macaire. »
Ce dernier obtempéra, mais ne relâcha pas la pression sur Tarnogol pour autant.
« Je vous préviens, signor, si vous touchez un seul cheveu de ma femme,
ce n'est pas moi, Macaire, »
le coupa Tarnogol d'un ton agacé.
« Ce n'est pas moi, c'est la P30. »«
Quoi ?
Pourquoi ferait-il cela ? » ?»«
Parce qu'ils veulent faire pression sur toi pour que tu me tues. »
Macaire dévisagea Tarnogol, ne sachant plus ce qu'il devait croire. Celui-ci poursuivit.
« Tout inquiète pour ta femme à présent. C'était pourtant les règles du jeu, non ?
Je te donne la présidence, tu me rends Anastasia. »
J'ai changé d'avis, dit Macaire. Je veux ma femme et la présidence. Il suffit que je vous exécute maintenant et tout sera réglé.
Sauf que tu ne peux pas me tuer,
expliqua Tarnogol, toujours très calme.
Et pourquoi pas?
Pour toute réponse, Tarnogol sortit une enveloppe de la poche intérieure de son veston. Il la tendit à Macaire, qui la reconnut aussitôt.
C'est l'enveloppe que je vous ai apportée lundi soir de bal,
dit-il.
Précisément. Et je suis sûr que tu es curieux de savoir ce qui se trouvait à l'intérieur. Ouvre-la donc.
Macaire obéit. C'était une série de clichés. Il resta atterré. Ses mains se mirent à trembler. Il était fini.
Ces photos, dit alors Tarnogol, sont mon assurance vie.
À Genève, dans le hall d'entrée de la maison des Ebesner, le lieutenant Sagamore continuait d'interroger Anastasia.
« Madame Ebesner, j'ai remarqué ce sac de voyage à côté de la porte d'entrée. Vous aviez prévu de partir quelque part ?»
Son cœur battit plus vite, mais son visage resta totalement impassible.
« Non, c'est un sac qui traîne dans l'entrée depuis quelques jours et que je dois défaire. Pardonnez le désordre. »
Le lieutenant Sagamore reprit.
« Vous avez dit à votre mari que vous étiez sorti faire une course ce matin. »
Or, je ne vois aucun sac de course dans le hall d'entrée.
Je n'ai rien trouvé. Je cherchais un chapeau d'hiver, c'était ça, ma course de la matinée. Mais je n'ai rien trouvé.
Quel magasin ? Interrogea aussitôt le lieutenant Sagamore. Anastasia fut prise au dépourvu.
Je me suis promenée au centre-ville, je suis allée voir au Bon Génie et dans quelques boutiques avoisinantes.
Madame Ebesner, dit alors Sagamore d'une voix pleine d'empathie.
Mes collègues ont trouvé un mot dans la chambre à coucher. Je pense qu'il n'a pas de lien avec l'enquête. Je vous le rends donc. »
Il lui tendit le message qu'elle avait laissé à Macaire avant de partir, lui annonçant qu'elle l'avait quitté. Elle le froissa et le mit dans sa poche, gênée. Elle se sentit obligée de se justifier.
« Je veux quitter mon mari. »«
Ça ne me regarde pas, madame, » dit aussitôt Sagamore, avant de se diriger vers la porte d'entrée. Il prit poliment congé d'elle, mais avant de s'en aller, il ajouta encore
« C'est étrange. Votre mari n'a pas demandé ce que le cambrioleur avait pris ailleurs dans la maison. En général, lorsqu'on avertit quelqu'un du cambriolage de son domicile, il s'inquiète toujours de ce qui a été volé et si la maison a été mise à sac par les intrus. Votre mari n'a rien demandé de tout cela, comme s'il n'était pas surpris que quelqu'un ne s'intéresse qu'à son boudoir et surtout à son coffre. »
Anastasia haussa les épaules. Le choc de la nouvelle, sans doute.
Ce qui l'intéressait surtout, c'était que je n'ai rien. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, lieutenant.
Au palace de Verbier, dans la suite de Tarnogol plongée dans la pénombre, Macaire ne pouvait détacher son regard des photos. C'étaient des clichés de lui à Madrid, une semaine plus tôt. Des séries d'images prises chaque fois sous différents jours, qui le montraient à la sortie de l'aéroport, dans la rue avec Pérez, devant l'immeuble de l'informaticien, puis quittant les lieux d'un pas pressé.
« Je ne te veux aucun mal, Macaire, » assura Tarnogol. « Mais je suis obligé de me protéger. J'ai donc pris mes précautions. Si tu avais la mauvaise idée de t'en prendre à moi, s'il devait m'arriver malheur pendant ce week-end, ces clichés et ton identité seraient transmis à la presse et la police espagnole.
« Vous êtes le diable !»
s'écria Macaire.
« Je suis pire que le diable, car moi, j'existe. »
Les deux hommes se dévisagèrent, comme deux lions prêts à s'affronter. Puis Tarnogol dit,
« Il n'y a aucune raison que nous soyons ennemis. Je te rappelle qu'à l'origine, j'ai obtenu tes actions de façon légitime. Nous avons fait un échange. Si tu veux que je te les rende, alors il faudra me rendre en retour ce qui est à moi.
Anastasia n'est pas à vous.
Elle n'est pas à toi non plus. Enfin, tu savais qu'à l'époque, elle aimait Lev. Elle te l'avait dit, non? Alors par quel miracle serait-elle tombée amoureuse de toi si ce n'est pas grâce à mon intervention?
Laissez-moi la présidence et disparaissez à jamais, suggéra Macaire. Tout le monde vous laissera tranquille.
Je sais que je suis dans une mauvaise situation. Si tu ne me tues pas, quelqu'un d'autre s'en chargera. Je sais que je suis condamné à mourir ou à disparaître. Par contre, j'ai pu encore bloquer ton élection.
À moins que quoi ? Demanda Macaire.
À moins que tu échanges Anastasia contre la présidence.
Il est temps de décider à laquelle des deux tu vas renoncer. À Colonie, lorsque tous les policiers furent partis, Anastasia se précipita dans le boudoir. Elle trouva le cahier à l'endroit que lui avait indiqué Macaire. C'était un cahier vierge, hormis quelques notes comptables sur la première page. À l'intérieur, il y avait une lettre. Elle était trop inquiète pour prendre connaissance de son contenu sur le moment. Elle fourra le tout dans son sac de voyage et téléphona à Lev pour le prévenir de la situation. Moins de 20 minutes après l'appel, la limousine noire conduite par Alfred passa le portail de la propriété. Anastasia sortit de la maison, son sac à la main, et s'engouffra rapidement dans la voiture qui repartit aussitôt et s'engagea sur le chemin de route en direction du centre-ville. La limousine regagna Genève par le quai du Général Guisan et traversa le pont du Mont-Blanc pour rejoindre l'hôtel des Bergues. Alfred passa par l'entrée située à l'arrière du bâtiment, prévue pour les camions de livraison, afin que personne ne puisse voir Anastasia.
« Monsieur m'a demandé de prendre toutes les précautions nécessaires », expliqua Alfred en s'engageant dans le parking souterrain. « Ici, vous serez en sécurité. »«
Merci, Alfred. J'ai eu tellement peur, vous ne pouvez pas imaginer. J'en tremble encore. »
« Je suis bien désolé que vous ayez vécu une expérience aussi désagréable, madame. »«
Vous savez, ce n'est pas tant le cambriolage en lui-même qui m'effraie, c'est le contexte. Mon mari semblait très inquiet. Il m'a parlé d'une histoire de documents bancaires. »
Elle préféra taire l'existence du cahier.
« Et malgré la cagoule que l'homme portait, il m'a semblé reconnaître l'homme. »«
Est-ce que ce serait quelqu'un de la banque ?»
demanda Alfred. « Je ne sais pas. Il n'avait d'ailleurs pas l'air très à l'aise. C'était vraiment bizarre. »
En retrouvant le cadre familier de la suite de Levovitch, Anastasia se sentit tout de suite mieux. Elle ferma la porte à double tour, se servit un verre de vin pour se remettre de ses émotions et le but en contemplant la vue spectaculaire sur le lac Léman. Puis, elle alluma un grand feu dans la cheminée et se saisit du cahier retrouvé dans le boudoir. Elle lut la lettre et découvrit avec étonnement qu'elle était signée du président de la Confédération helvétique qui remerciait Macaire de ses services. Quel service ? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Elle décida de suivre les consignes de son mari. Elle jeta la lettre au feu et la regarda se consumer. Elle voulut faire de même avec le cahier, mais au moment de l'offrir aux flammes, elle remarqua des inscriptions en filigrane des pages qu'elle croyait pourtant vierges. Anastasia, fébrile, exposa le papier à la chaleur. Un texte s'imprima soudain dessus. Elle se mit à lire, le cœur battant, le récit de Macaire. La Suisse, ce havre de tranquillité au vert pâturage et au lac bleuté est aussi un pays qui protège ses banques comme une maman ours, farouchement. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Moi-même, je n'en sais guère davantage d'ailleurs. Ordre et symétrie sont notre devise. Silence et prudence sont nos enfants. Voilà 12 ans, j'ai été recruté par une branche spéciale des services de renseignement suisses. Cette unité clandestine s'appelle la P30. Elle est financée par une caisse noire du gouvernement et agit hors du contrôle de la Commission sur le renseignement du Parlement. Anastasia, abasourdie, découvrit la double vie qu'avait menée son mari pendant toutes ces années. Elle lut, fébrile, le compte-rendu des missions qu'il avait conduites pour la P-30. Macaire, son gentil Macaire, son mari un peu gauche et pâteau, avait été un agent des services de renseignement. Elle en aurait été presque impressionnée et amusée si le récit n'avait pas pris ensuite une tournure tragique. « Je dois le confesser ici. J'ai des morts sur la conscience. Malgré moi, j'ai participé indirectement à l'élimination d'un ancien informaticien de la banque et de son épouse qui avait voulu transmettre des listes de clients au fisc espagnol. Je regrette infiniment le sang qui a coulé par ma faute. Je ne l'ai jamais voulu. Si quelqu'un lit ces lignes, c'est que la situation a mal tourné. Je vous supplie, amis lecteurs, de me croire, je n'ai jamais voulu la mort de quiconque. Je ne connaissais pas les desseins funestes de la P-30. J'ai été élevé dans l'amour, dans la chrétienté, et j'espère que je pourrai un jour me laver de ces péchés. Que Dieu me pardonne. » Anastasia interrompit sa lecture. Elle était épouvantée. Elle tremblait. Elle fit le lien avec la lettre du président de la Confédération qui remerciait Macaire pour les services rendus à la patrie. Puis elle lut la dernière partie du récit. « Ma dernière mission aura lieu en ce grand week-end de la Banque Ebesner à Verbier. La P-30 m'a demandé d'empêcher Signor Tarnogol de prendre le contrôle de la Banque Ebesner. Ma marge de manœuvre est très limitée. Soit je convainc Tarnogol de me nommer président, soit je devrais le tuer. Je sais que si j'échoue, la P-30 me mettra sur le dos le double meurtre auquel j'ai indirectement participé. Je n'aurais jamais cru devoir un jour en arriver là. Mais je ne peux pas m'apitoyer sur mon sort car je suis le seul responsable de cette situation. C'est moi, en effet, qui ai permis à Tarnogol d'en arriver là en lui cédant mes parts de la banque. Et puisque ce texte est ma confession, il reste un secret que je dois livrer ici. Je dois vous révéler ici ce que m'a donné Signor Tarnogol en échange de mes actions de la banque. » Elle plaça ses mains sur sa bouche comme pour s'empêcher de crier. C'était impossible. Ce qu'elle disait ne pouvait pas être la vérité. Tarnogol ne pouvait pas avoir fait ça. Elle sentit les larmes monter. Elle essaya de se remémorer comment cela s'était passé, comment elle avait rompu avec Lev 15 ans plus tôt, mais ses souvenirs étaient soudain flous. Elle relut encore une fois ce que Macaire avait inscrit dans son cahier. Comment Tarnogol avait-il pu faire ça? Cet homme était le mal absolu. Elle attrapa son téléphone portable et composa le numéro de Macaire.
« Allô, chouchou, tout va bien ?»«
Macaire, je... » Elle pleurait. Il comprit qu'elle avait lu le cahier.
« Ne parle pas, »
l'implora-t-il.
« Nos lignes sont sûrement sur écoute. »«
Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Macaire ?»«
Je peux pas te le dire. Mais ce que je vais faire, je vais le faire pour toi. Par amour. Raccroche maintenant. Je ne veux pas qu'il puisse te localiser. »
Elle raccrocha et elle éclata en sanglots. Elle pressentait une catastrophe.